Écoutez, révisez le temps d'un confinement à l'heure de la grande table. France Culture fait résonner dans la voix de grands comédiens les mots de grands écrivains et vous invite à lire ou relire des classiques du XVIe siècle à aujourd'hui, des romans, des pièces ou des poèmes signés Apollinaire, Victor Hugo, Stendhal ou encore Molière. Et de réviser ces œuvres de notre patrimoine littéraire, commentées, analysées pour vous par des professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Hier, c'était Jules Verne. Demain, on ouvrira les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, poème lu par Jacques Gamblin.
Écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
Dans une lettre adressée au poète Alfred de Vigny en 1861, Baudelaire prévient « Le seul éloge que je sollicite pour ce livre est qu'on reconnaisse qu'il n'est pas un pur album et qu'il a un commencement et une fin ». Les Fleurs du Mal sont donc à considérer dans son ensemble depuis son célèbre avertissement « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère », écrit Baudelaire, jusqu'au voyage final et son appel à une ivresse nouvelle. Baudelaire propose un véritable itinéraire avec un début, donc, et une fin. 5 étapes fléchées dès l'édition de 1857. Une considération de la condition poétique entre spleen et idéal, titre de la première et plus massive section. La mort, titre de la dernière section. Et entre-temps, le vin, les fleurs du mal et révolte. Un parcours intellectuel, existentiel, mais aussi universel et allégorique, si on suit le sens indiqué par l'auteur et qu'on ne se limite pas à quelques morceaux choisis. Les textes qui vont vous être lus dans un instant sont très particuliers. Ils ont tous été écrits après la publication des premières Fleurs du Mal en 1857. Le procès en moralité qui l'a suivi a donné à cette première édition une notoriété toute particulière. Pour la réédition des Fleurs du Mal, 4 ans après, en 1861, Baudelaire a choisi d'ajouter une nouvelle section entre spleen et levain, qu'il a intitulée « Tableau parisien, nourri de poèmes déplacés et de poèmes nouveaux ». Modifier la composition d'un chef-d'œuvre est un geste, vous le pensez bien, qui n'a rien d'anodin. Pourquoi Baudelaire alors a-t-il décidé de changer l'architecture de son livre poétique? Ce choix tient à la modernité du thème urbain qui le préoccupe dans ces années-là et à sa découverte de l'esthétique de l'esquisse qu'il va théoriser à partir notamment des aquarelles de Constantin Guise. L'un comme l'autre le conduisent à se lancer dans l'aventure des poèmes en prose, voire le futur spleen de Paris. C'est donc en peintre de la vie moderne que Baudelaire s'avance dans cette nouvelle section des Fleurs du Mal. Le cygne d'abord, les petites vieilles, les aveugles et à une passante. Parmi les 18 poèmes des tableaux parisiens, les 4 poèmes que vous allez entendre portent la signature de l'auteur. À la fois typiques de l'identité baudelairienne, ils sont aussi porteurs d'une expérience nouvelle. L'alchimie poétique s'y rejoue, entre la boue et l'or, autrement. À noter enfin que les 2 plus longs textes, en quatrain d'Alexandrin à rimes croisées, sont dédiés à Victor Hugo, pas par pure filiation romantique. Ce qui unit ces textes serait plutôt la conception du poète comme flâneur, comme chiffonnier. Croquis, passant capté dans l'instant, le dialogue avec les arts visuels, cette pratique de la déambulation urbaine, mise en œuvre par Baudelaire, nourrira notamment par la suite les poètes surréalistes. Admirateur de Hugo, l'auteur des Fleurs du Mal lui a envoyé en copie manuscrite les poèmes dédiés, notamment Le Cygne et Les Petites Vieilles, où il commente ses emprunts. Ce sont des vers de Hugo consacrés à des jeunes filles qui vont inspirer Baudelaire pour sa cruelle description des petites vieilles, pastiche d'admiration, conclut Claude Pichois dans son édition de La Pléiade. Mais c'est surtout un état d'esprit, la compassion si hugolienne, qui va influencer l'écriture de Baudelaire, comme le montre d'emblée Le Cygne, lu pour vous par un comédien en situation de confinement, c'est Jacques Gamblin.
Le Cygne, à Victor Hugo. Andromaque, je pense à vous. Ce petit fleuve, pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carrousel. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques, et brillant au carreau le bric-à-brac confus. Là s'étalait jadis une ménagerie. Là je vis un matin, à l'heure où sous les cieux, froids et clairs, le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux, un cygne qui s'était évadé de sa cage. Et de ses pieds palmés frottant le pavé sec, sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. Près d'un ruisseau sans eau, la bête ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre, et disait le cœur plein de son beau lac natal, « Oh, quand donc pleuvras-tu? Quand tonneras-tu, foudre ? » Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal, vers le ciel quelquefois comme l'homme d'Ovide, vers le ciel ironique et cruellement bleu, sur son cou convulsif tendant sa tête avide, comme s'il adressait des reproches à Dieu. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi devant ce Louvre une image m'opprime. Je pense à mon grand cygne avec ses gestes fous, comme les exilés, ridicules et sublimes, et rongés d'un désir sans trêve. Et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, vil bétail sous la main du superbe Pyrrhus, auprès d'un tombeau vide en extase courbée, veuve d'Hector, hélas, et femme d'Hélénus. Je pense à la négresse, amaigrie et phtisique, piétinant dans la boue et cherchant l'œil hagard les cocotiers absents de la superbe Afrique, derrière la muraille immense du brouillard. À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais. À ceux qui s'abreuvent de pleurs et têtent la douleur comme une bonne louve, aux maigres orphelins séchant comme des fleurs. Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. Les petites vieilles, à Victor Hugo. Dans les plis sinueux des vieilles capitales, où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants. Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, Éponine ou Laïs, monstres brisés, bossus, ou tordus, émonlés, ce sont encore des âmes. Sous des jupons troués et sous de froids tissus, ils rampent, flagellés par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus, et serrant sur leurs flancs, ainsi que des reliques, un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Ils trottent, tout pareils à des marionnettes, se traînent, comme font les animaux blessés, ou dansent, sans vouloir danser, pauvres sonnettes où se pend un démon sans pitié, tout cassé qu'ils sont. Ils ont des yeux perçants comme une vrille, luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit. Ils ont les yeux divins de la petite fille qui s'étonne et qui rit à tout ce qui reluit. Avez-vous observé que mains cercueils de vieilles sont presque aussi petits que celui d'un enfant? La mort savante met dans ses bières pareilles un symbole d'un goût bizarre et captivant. Et lorsque j'entrevois un fantôme débile traversant de Paris le fourmillant tableau, il me semble toujours que cet être fragile s'en va tout doucement vers un nouveau berceau. À moins que, méditant sur la géométrie, je ne cherche à l'aspect de ses membres discords combien de fois il faut que l'ouvrier varie la forme de la boîte où l'on met tous ses corps. Ses yeux sont des puits faits d'un million de larmes, des creusets qu'un métal refroidi pailleta. Ses yeux mystérieux ont d'invincibles charmes pour celui que l'austère infortune allaita. De Frascati défunt, vestale énamourée, prêtresse de Thalie, hélas, dont le souffleur enterré sait le nom, célèbre évaporée, que Tivoli jadis ombragea dans sa fleur, toute m'enivre. Mais parmi ces êtres frêles, il en est qui, faisant de la douleur un miel, ont dit au dévouement qui leur prêtait ses ailes, « Hippogriffe puissant, mène-moi jusqu'au ciel. » L'une par sa patrie au malheur exercée, l'autre que son époux surchargea de douleur, l'autre par son enfant madone transpercée, toutes auraient pu faire un fleuve avec leurs pleurs. Ah, que j'en ai suivi de ces petites vieilles! Une, entre autres, à l'heure où le soleil tombant ensanglante le ciel de blessures vermeilles, pensive, s'asseyait à l'écart sur un banc pour entendre un de ces concerts riches de cuivre dont les soldats parfois inondent nos jardins et qui, dans ces soirs d'or où l'on se sent revivre, verse quelque héroïsme au cœur des citadins. Celle-là, droite encore, fière et sentant la règle, humait avidement ce chant vif et guerrier. Son œil parfois s'ouvrait comme l'œil d'un vieil aigle. Son front de marbre avait l'air fait pour le laurier. Tels vous cheminez, stoïques et sans plainte, à travers le chaos des vivantes cités, mères au cœur saignant, courtisanes ou saintes, dont autrefois les noms par tous étaient cités. Vous qui fûtes la grâce ou qui fûtes la gloire, nul ne vous reconnaît. Un ivrogne incivil vous insulte en passant d'un amour dérisoire, sur vos talons gambadent d'un enfant lâche et vil. Honteuse d'exister, ombre ratatinée, peureuse, le dos bas, vous côtoyez les murs, et nul ne vous salue, étrange destinée, débris d'humanité pour l'éternité mûre. Mais moi, moi qui de loin tendrement vous surveille, l'œil inquiet, fixé sur vos pas incertains, tout comme si j'étais votre père, ô merveille, je goûte à votre insu des plaisirs clandestins. Je vois s'épanouir vos passions novices, sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus. Mon cœur multiplié jouit de tous vos vices, mon âme resplendit de toutes vos vertus. Ruine, ma famille, ô cerveau congénère, je vous fais chaque soir un solennel adieu. Où serez-vous demain, Ève octogénaire, sur qui pèse la griffe effroyable de Dieu? Les aveugles. Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux. Pareils aux mannequins, vaguement ridicules, terribles, singuliers comme les somnambules, dardant on ne sait où leurs globes ténébreux. Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, comme s'ils regardaient au loin, restent levés au ciel, on ne les voit jamais vers les pavés, pencher rêveusement leur tête appesantie. Ils traversent ainsi le noir illimité, ce frère du silence éternel, ô cité, pendant qu'autour de nous, tu chantes, ris et beugles, et prise du plaisir jusqu'à l'atrocité, vois, je me traîne aussi, mais plus que hébété, je dis, que cherchent-ils au ciel, tous ces aveugles? À une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine, et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Et maintenant, comprendre Baudelaire dans le texte, plusieurs points communs entre ses poèmes. D'abord, le thème parisien est donc l'unité de lieu. C'est le paysage du Louvre qui sert de décor à l'allégorie du cygne. Les petites vieilles apparaissent comme des sortes de gargouilles issues des façades d'une cité aussi vieille qu'elle. La ville de Baudelaire n'est pas du tout un champ du Paris de son temps. Nulle beauté industrielle à célébrer dans les tableaux parisiens. Plus que l'espace, d'ailleurs assez peu décrit, c'est le temps qui intéresse Baudelaire. Et la perte d'un passé révolu qui donne de la profondeur aux villes disposant d'une histoire. Pour éviter tout contresens sur la modernité de Baudelaire, il faut se souvenir des vers du cygne « Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel ». Le Paris de Haussmann qui démolit les rues étroites à partir de 1849 est décrié et la mélancolie du poète vient compenser les changements du paysage. À noter ensuite l'esthétique de la rencontre développée par Baudelaire. La ville fait travailler le regard, il y a ce que la ville donne à voir, la beauté éphémère et foudroyante d'une passante, ou alors une collection de petites vieilles, saisie par le poète qui guette. Mais il y a aussi ce que l'œil intérieur recompose, le poète partageant là, avec les aveugles du sonnet, sa quête dans l'obscurité. Tableau, esquisse et caricature, Baudelaire invente une esthétique et une pratique de la ville. Il cueille et rassemble des choses belles et des choses laides, et pour y parvenir s'approprie l'art de l'esquisse et celui de la caricature. Chasseur de formes étranges, il récolte ce que la ville lui offre d'étonnant. Malgré la dédicace à Victor Hugo, c'est plutôt à Balzac que Baudelaire fait penser dans son exploration des bas-fonds. Faire surgir l'or de la boue urbaine, les deux écrivains partagent un même projet. Faut-il voir d'ailleurs dans le titre du recueil « Les fleurs du mal » une référence directe à Balzac, quand le narrateur du roman « Splendeurs et misères des courtisanes » déclare à propos de Vautrin « C'est la poésie du mal ». Baudelaire, chiffonnier du sensible, ramassant des rebuts, des choses oubliées ou rejetées, pour leur donner une forme sensible, comme l'a analysé le philosophe et critique allemand Walter Benjamin dans ses travaux sur le Paris du XIXe siècle. Baudelaire est assurément un poète moderne qui n'oublie rien de la tradition. Virgile, Racine, affleurent sans cesse dans le poème le cygne. Dans celui-ci, comme dans les petites vieilles, la différence radicale de tonalité, mi-pathétique, mi-ironique, n'interdit pas la même régularité formelle des quatrains d'Alexandrin à rimes croisées. L'intensité baudelairienne, enfin. Elle est typique de cette plume, dans son empathie pour les vaincus, dans le poème Le Cygne, ou dans l'apparente cruauté des aveugles, ou dans celui des petites vieilles. Vive l'Alexandrin qui peut ouvrir au rejet entre deux strophes pour figurer le bec béant du cygne, comme accompagner toutes les lignes courbes, sinuosité des vieilles capitales, écrit l'auteur. Le vers de Baudelaire est comme le serpent qui danse, pour reprendre le titre de l'un des poèmes des Fleurs du Mal, souple, élégant, rapide et parfois menaçant. Son écriture est serrée, un concentré de sensations, d'où une puissance du vers remarquée à l'époque par Flaubert. En 1857, l'écrivain écrit à Baudelaire que la phrase est toute bourrée par l'idée à en craquer. D'un poème à l'autre, les variations de ton montrent bien que le projet de Baudelaire entend dépasser les catégories du bien et du mal. Derrière le dandysme grinçant, la poésie est sainte prostitution de l'âme, comme Baudelaire le dira lui-même dans le poème en prose « Les foules », se donnant à tout, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Les portraits à charge des aveugles ou des petites vieilles doivent être entendus et compris avec la réversibilité des images qu'ils produisent. Quand Baudelaire écrit « Avez-vous observé que minces cercueils de vieilles sont presque aussi petits que celui d'un enfant ?» Il touche par la justesse du détail, mais ce renversement entre les deux âges, derrière l'ironie, invite aussi à la tolérance. Au terrible spectacle de la douleur et de l'infirmité s'ajoutent les images de tous ceux que la vie a exilés dans leurs conditions. Des mots grinçants du poète s'échappent à sa propre douleur. Une méditation sur la condition humaine que nous vous proposons de prolonger avec cette deuxième lecture de Jacques Gamblin, extrait des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire.
Le jeu. Dans des fauteuils fanés, des courtisanes vieilles. Pâle, le sourcil peint, l'œil câlin et fatal, mine aux dents et faisant de leurs maigres oreilles tomber un cliquetis de pierre et de métal. Autour des verts tapis, des visages sans lèvres, des lèvres sans couleur, des mâchoires sans dents, et des doigts convulsés d'une infernale fièvre fouillant la poche vide ou le sein palpitant. Sous de sales plafonds, un rang de pâles lustres et d'énormes quinquets projetant leur lueur sur des fronts ténébreux de poètes illustres qui viennent gaspiller leur sanglante sueur. Voilà le noir tableau qu'en un rêve nocturne je vis se dérouler sous mon œil clairvoyant. Moi-même, dans un coin de l'antre taciturne, je me vis accoudé, froid, muet, enviant. Enviant de ces gens la passion tenace, de ces vieilles putains la funèbre gaieté, et tous gaillardement trafiquant à ma face l'un de son vieil honneur, l'autre de sa beauté. Et mon cœur s'effraya d'envier maint pauvre homme, courant avec ferveur à l'abîme béant, et qui, sous de son sang, préférerait en somme la douleur à la mort et l'enfer au néant. Danse macabre. À Ernest Christophe. Fier, autant qu'un vivant, de sa noble stature, avec son gros bouquet, son mouchoir et ses gants, elle a la nonchalance et la désinvolture d'une coquette maigre aux airs extravagants. Vit-on jamais au bal une taille plus mince? Sa robe exagérée en sa royale ampleur s'écroule abondamment sur un pied sec que pince un soulier pomponné, joli comme une fleur. La ruche qui se joue au bord des clavicules, comme un ruisseau lascif qui se frotte au rocher, défend pudiquement des lazzis ridicules les funèbres appâts qu'elle tient à cacher. Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres, et son crâne, de fleurs artistement coiffées, oscille mollement sur ses frêles vertèbres. Ô charme d'un néant follement attifé! Aucun t'appelleront une caricature qui ne comprenne pas, amants ivres de chair, l'élégance sans nom de l'humaine armature. Tu réponds, grand squelette, à mon goût le plus cher. Viens-tu troubler avec ta puissante grimace la fête de la vie, ou quelque vieux désir, éperonnant encore ta vivante carcasse, te pousse-t-il, crédule, au sabbat du plaisir? Au chant des violons, aux flammes des bougies, espères-tu chasser ton cauchemar moqueur et viens-tu demander au torrent des orgies de rafraîchir l'enfer allumé dans ton cœur? Inépuisable puits de sottises et de fautes, de l'antique douleur éternelle alambique, à travers le treillis recourbé de tes côtes, je vois, errant encore, l'insatiable aspic. Pour dire vrai, je crains que ta coquetterie ne trouve pas un prix digne de ses efforts. Qui de ces cœurs mortels entend la raillerie? Les charmes de l'horreur n'enivrent que l'effort. Le gouffre de tes yeux, plein d'horribles pensées, exhale le vertige, et les danseurs prudents ne contempleront pas sans d'amères nausées le sourire éternel de tes 32 dents. Pourtant, qui n'a serré dans ses bras un squelette? Et qui ne s'est nourri des choses du tombeau? Qu'importe le parfum, l'habit ou la toilette, qui fait le dégoûté montre qu'il se croit beau. Bayadère sans nez, irrésistible gouge, dis donc à ces danseurs qui font les offusqués, fiers mignons, malgré l'art des poudres et du rouge, vous sentez tous la mort, ô squelette musqué, Antinous flétri, dandys à face glabre, cadavre vernissé, lovelace chenu, le branle universel de la danse macabre, vous entraînant des lieux qui ne sont pas connus. Des quais froids de la Seine au bord brûlant du Gange, le troupeau mortel saute et se pâme, sans voir, dans un trou du plafond la trompette de l'ange, sinistrement béante, ainsi qu'un tromblon noir. En tout climat, sous tout soleil, la mort t'admire, en tes contorsions, risible humanité, et souvent, comme toi, se parfumant de myrrhe, mêle son ironie à ton insanité. L'amour du mensonge. Quand je te vois passer, ô ma chère indolente, au chant des instruments qui se brisent au plafond, suspendant ton allure harmonieuse et lente et promenant l'ennui de ton regard profond, quand je contemple au feu du gaz qui le colore ton front pâle embelli par un morbide attrait où les torches du soir allument une aurore et tes yeux attirants comme ceux d'un portrait, je me dis qu'elle est belle et bizarrement fraîche. Le souvenir massif, royal et lourd de tour, la couronne et son cœur meurtri comme une pêche et mûr comme son corps pour le savant amour. Es-tu le fruit d'automne aux saveurs souveraines? Es-tu vase funèbre attendant quelques pleurs, parfum qui fait rêver aux oasis lointaines, oreiller caressant ou corbeille de fleurs? Je sais qu'il est des yeux des plus mélancoliques qui ne recèlent point de secrets précieux, beaux écrins sans joyaux, médaillons sans reliques, plus vides, plus profonds que vous-même, ô cieux. Mais ne suffit-il pas que tu sois l'apparence pour réjouir un cœur qui fuit la vérité? Qu'importe ta bêtise ou ton indifférence, masque ou décor, salut. J'adore ta beauté.
C'était Écouter, réviser Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, lecture signée Jacques Gamblin. Coordination Blandine Masson, réalisation Sophie Haute-Picon avec Bastien Varigo à la technique. Et maintenant tous à vos livres et surtout à vos podcasts. Écouter, réviser, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de l'opération Nation apprenante. Un grand merci à Olivier Barbaran, inspecteur général, qui a sélectionné et commenté ses poèmes. Mise en onde, Jean-Christophe Francis. Merci à Laura Dutèche-Pérez aussi pour son aide. Sur franceculture.fr, vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec cette émission, mais aussi des liens pour approfondir. Je vous dis à demain avec Marguerite Yourcenar. Très bel après-midi à tous sur France Culture.